parmi les nations. Nous battrons nos jours pour la terre charnelle. Ne déposerons-nous sur la table éternelle que des cœurs pleins de guerre et de sédition. Vous nous voyez marcher parmi les nations. Nous battrons-nous toujours pour quatre coins de terre. Ne mettrons-nous jamais sur la table de guerre que des cœurs pleins de mort et de rébellion. Heureux ceux qui sont morts pour la terre éternelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles.
Citoyens, je veux vous dire ce soir que jamais nous n'avons été, que jamais depuis 40 ans l'Europe n'a été dans une situation plus menaçante et plus tragique. Ah, citoyens, je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau. Je ne veux pas dire que la rupture diplomatique dont nous avons eu la nouvelle il y a une demi-heure entre l'Autriche et la Serbie signifie nécessairement qu'une guerre entre l'Autriche et la Serbie va éclater. Et je ne dis pas que si la guerre éclate entre la Serbie et l'Autriche, le conflit s'étendra nécessairement au reste de l'Europe. Mais je dis que nous avons contre nous, contre la paix, contre la vie des hommes à l'heure actuelle, des chances terribles, et contre lesquelles il faudra que les prolétaires de l'Europe tentent les efforts de solidarité suprême qu'ils pourront tenter. C'est la question de la Bosnie-Herzégovine qui est l'occasion de la lutte entre l'Autriche et la Serbie, et nous, Français. Quand l'Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n'avons pas le droit ni le moyen de lui opposer la moindre remontrance, parce que nous étions engagés au Maroc et que nous avions besoin de nous faire pardonner notre propre péché en pardonnant les péchés des autres. Et alors, notre ministre des Affaires étrangères disait à l'Autriche « Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine, à condition que vous nous passiez le Maroc ». Et nous promenions nos offres de pénitence de puissance en puissance, de nation en nation, et nous disions à l'Italie « Tu peux aller en Tripolitaine, puisque je suis au Maroc. Tu peux voler à l'autre bout de la rue, puisque moi j'ai volé à l'extrémité. » Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe, avec sa petite torche à la main, et maintenant voilà l'incendie. Dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énormité du désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui, pour les hommes, une guerre européenne. Vous avez vu la guerre des Balkans. Une armée presque entière a succombé soit sur le champ de bataille, soit dans les lits d'hôpitaux. Une armée est partie à un chiffre de 300 000. Elle laisse dans la terre des champs de bataille, dans les fossés, les chemins ou dans les lits d'hôpitaux, infectés par le typhus, 100 000 hommes sur 300 000. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5 et 6 armées de 2 millions d'hommes. Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Discours de Jean Jaurès le 25 juillet 1914.
Jaden revient. Il est toujours en état d'excitation. Et il se mêle aussitôt à la conversation, en demandant comment une guerre se produit. Le plus souvent, c'est parce qu'un pays en offense un autre, répond Albert, d'un ton un peu supérieur. Mais Jaden fait la bête. Un pays? Je ne comprends pas. Une montagne allemande ne peut pourtant pourtant pas offenser une montagne française, ni une rivière, ni une forêt, ni un char de blé. Es-tu stupide à ce point ou joues-tu la comédie, Romain Grock? Ce n'est pourtant pas ça que je veux dire. Un peuple en offense un autre. Alors je n'ai rien à faire ici, réplique Jaden. Je ne me sens pas offensé. Mais a-t-on des explications à te donner, à toi? Dit Albert d'un ton mécontent. Toi, cutéreux, tu ne comptes pas là-dedans. Alors raison de plus pour que je m'en retourne, insiste Jaden. Tout le monde se met à rire. Mais bougre d'idiot, il s'agit du peuple dans son ensemble, c'est-à-dire de l'État, s'écrie Muller. L'État. Ce disant, Jaden fait claquer ses doigts d'un air malin. Les gendarmes, la police, les impôts, voilà votre État. Si cela t'intéresse, toi, je te félicite. D'accord, fait cap. C'est la première fois que tu dis quelque chose de sensé, Jaden. Entre l'État et la patrie, c'est vrai qu'il y a une différence. Cependant, l'un avec l'autre, réfléchit Croc. Une patrie sans État, ça n'existe pas. Juste, réplique Cap. Mais songe donc que nous sommes presque tous du peuple, et en France aussi, la plupart des gens sont des manœuvres, des ouvriers et de petits employés. Pourquoi donc un serrurier ou un cordonnier voudrait-il nous attaquer? Non, ce ne sont que les gouvernements. Je n'ai jamais vu un Français avant de venir ici. Et il y en est de même de la plupart des Français, en ce qui nous concerne. On leur a demandé leur avis aussi peu qu'à nous. Pourquoi donc y a-t-il la guerre? Demande Jaden. Cat hausse les épaules. Il doit y avoir des gens à qui la guerre profite. Eh bien, je ne suis pas de cela, réclame Jaden. Ni toi, ni personne de ceux qui sont ici. À qui donc profite-t-elle? Insiste Jaden. Elle ne profite pourtant pas au Kaiser non plus. Il a tout de même ce qu'il lui faut. Ne dis pas cela, réplique Cat. Une guerre, jusqu'à présent, il n'en avait pas deux. Et tout grand empereur a besoin d'au moins une guerre, sinon il ne devient pas célèbre. Regarde dans tes livres de place. Les généraux également deviennent célèbres grâce à la guerre, dit Thierry. Encore plus célèbres que les empereurs, confirme Cat. Sûrement, il y a encore derrière eux d'autres gens qui veulent que la guerre leur profite, grogne Thierry. Je crois plutôt que c'est une espèce de fièvre, dit Albert. Personne, à proprement parler, ne veut la guerre, et soudain, elle est là. Nous n'avons pas voulu la guerre. Les autres prétendent la même chose, et pourtant, la moitié de l'univers y travaille ferme.
Ils sont des hommes, des bons hommes quelconques, arrachés brusquement à la vie. Comme des hommes quelconques pris dans la masse, ils sont ignorants, peu emballés, à vue bornée, pleins d'un gros bon sens qui parfois déraille, enclins à se laisser conduire et à faire ce qu'on leur dit de faire, résistant à la peine, capables de souffrir longtemps. Ce sont de simples hommes qu'on a simplifiés encore. Et dont, par la force des choses, les seuls instincts primordiaux s'accentuent. Instinct de conservation, égoïsme, espoir tenace de survivre toujours, joie de manger, de boire et de dormir.
Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine, boucher ou bétail. Ce sont des laboureurs et des ouvriers, qu'on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal de la mort et du meurtre. Mais on voit, en contemplant leurs figures, entre les rayons verticaux des baïonnettes, que ce sont simplement des hommes.
Le 3 mars, à 7h du matin, je me trouvais dans la tranchée, à la bifurcation du boyau conduisant au petit poste. Je guettais l'arrivée de l'homme de café qui avait promis de venir nous ravitailler malgré la défense du capitaine. J'entends un clapotement annonçant sans doute son arrivée, mais hélas, c'était notre capitaine. Je le saluais et m'effaçais, pensant qu'il allait au petit poste. Mais d'une voix dure, il me dit:
« Il faudrait, attendez-vous, se secouer un peu plus que ça. »
Mon Capitaine, que voulez-vous dire?
Je veux dire que je veux voir tout le monde travailler. Combien avez-vous de sentinelles qui veillent?
Depuis le jour, une seulement. Les deux autres se reposent.
Ah, elles se reposent. Faites-les venir avec des pelles.
Mais, mon capitaine, on n'a pas encore bu le café. Et d'ailleurs, on a nettoyé du mieux qu'on a pu le boyau et les abords de la tranchée au petit jour.
J'en ai assez de vos réflexions. Faites travailler ces deux hommes tout de suite dans la tranchée.
Mon capitaine, vous ignorez sans doute le danger qu'il y a de se faire voir dans cette partie de tranchée qui est en vue des boches et prise d'enfilade par les mitrailleuses. Il y a eu des blessés à la compagnie précédente. Hier, le soldat Benil, même en marchant courbé, a eu le casque traversé par une balle.
Assez. Vous n'avez qu'à obéir.
J'ai aussi à obéir à ma conscience. Nous étions là, tous les deux, à nous regarder dans les yeux. Lui exaspéré, moi le défiant.
Oui ou non, caporal Bartas, voulez-vous obéir?
La nuit, ou avec le brouillard, mon capitaine, je ferai ce que vous voudrez. Mais deux jours, je me refuse à exposer inutilement la vie de mes hommes.
C'est bon, vous serez puni.
Deux jours après, j'étais au petit poste. Une heureuse nouvelle nous était parvenue. On devait être relevé définitivement par les Anglais le soir même à 8 heures. Cette précipitation à nous relever s'expliquait par les mauvaises nouvelles reçues de Verdun. Les Anglais étendaient leur front pour rendre disponibles des troupes françaises. C'était 5 heures du soir. Nos couvertures roulées, nos toiles de tente ramassées, nous attendions avec impatience l'arrivée des Tommies. Mais voici le sergent de jour qui s'amène un papier à la main. D'une voix attristée, il me dit « Bartas, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Je pâlis. La maladie. La mort peut-être d'un des miens annoncée par télégramme. Qu'est-ce qu'il y a, fis-je angoissé. Il me tendit le papier et je lus. Le caporal Bartas est cassé de son grade et passe à la 15e compagnie. Je respirais. Ce n'était que cela. J'arrachais mes canons que je jetais dans la boue. Je me sentis délivré d'un remords, libéré d'une chaîne. En acceptant un grade, si infime fut-il, on détenait une parcelle d'autorité, de cette odieuse discipline, et on était en quelque sorte complice de tous les méfaits du militarisme exécré. Simple soldat, je recouvrais mon indépendance, ma liberté de critiquer, de haïr, de maudire, de condamner ce militarisme, cause de cette ignoble tuerie mondiale.
Chaque relève demandait bien une demi-heure par compagnie. Il était 4 heures du matin. Ce qui signifiait que notre tour viendrait à 6 heures, après que les occupants du poste de secours nous auraient laissé la place. 2 heures au moins à attendre dans la nuit noire, sous une pluie fine, froide comme de la glace, qui avait gonflé nos capotes. Les pieds dans l'eau, nous avons réussi à trouver un abri auprès des cuisines roulantes, tout feu éteint bien entendu. Ça sentait le graillon et le vieux marc de café. On entendait des filets d'eau tomber dans des flaques, mais également des bruits de rats qui se battaient. Nous n'avions rien pour nous asseoir. J'étais là, avec Paradès et les infirmiers. Nous dormions debout. 6h15, toujours rien. Les cuistots qui venaient d'arriver allumèrent le percolateur pour faire le jus pour les poilus. Ils nous offrent à chacun un quart de jus chaud, ce qui nous a remonté un peu, mais n'amenait pas ce que nous attendions. L'horizon commençait à s'éclairer, crasseux, lorsqu'on vit apparaître un gars. C'était le chat, le miroitier du faubourg, notre ancien cuistot d'Argonne, muté au 3e bataillon. Je m'étonnais. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites donc? Vous avez 3 quarts d'heure de retard. Ah, ne m'en parlez pas. Nous avons touché un nouveau médecin de bataillon. Il est complètement cinglé. Figurez-vous, il trouve que les infirmiers ne connaissent pas assez leur métier, qu'ils ne savent pas assez de médecine. Alors, il fait des cours. Et on se relaie de temps en temps. On aperçut bientôt dans le lointain un groupe d'ombres, une demi-douzaine d'hommes, dont le premier homme parlait, le reste traînant à sa suite. Drôle de pèlerin, s'exclama Émile de Paradès. Lorsqu'ils furent plus près, on put entendre ce que disait le gars de tête. Il y a 3 formes de péritonite tuberculeuse, la forme acidique, la forme ultra-rocacéeuse et la forme fibro-adhésive. Un immense éclat de rire partit de notre groupe. Nous ne regrettions pas d'avoir mariné toute la nuit sous l'eau.
Charles de Gaulle, 1er septembre 1918. Je n'ai pas besoin de vous dire que pour moi, il ne se passe rien. Je suis enterré vivant. Lisant l'autre jour dans quelques journaux le qualificatif de « revenant » appliqué à des prisonniers rentrés en France, je l'ai trouvé lamentablement juste. Si je ne peux combattre à nouveau d'ici la fin de la guerre, resterai-je dans l'armée? Et quel avenir médiocre m'y sera fait? 3 ans, 4 ans de guerre auxquels je n'aurais pas assisté, davantage peut-être? Pour avoir quelque avenir dans la carrière, en ce qui concerne les officiers de mon âge et qui ont quelque ambition, la première, l'indispensable condition est d'avoir fait la campagne, d'avoir, au fur et à mesure qu'elle changeait de forme, appris à la juger, former ses raisonnements, tremper son caractère et son autorité. Au point de vue militaire, je ne me fais aucune illusion. Je ne serai moi-même qu'un revenant. Votre fils aimant.
Côte à côte l'hiver, deux buissons de fil barbelé. En mai, l'un fleurit d'aubépine.
Deux levées de terre. Deux réseaux de fil de fer, deux civilisations.
Ô boue, infâme boue, abominable boue, tes immondes crachats nous ont plâtré la joue. Glaise verdâtre ou fange glauque, nous avons chuté sur les méplats luisants de tes savons. Nous avons titubé comme un verra patauge dans sa mangeaille, au fond limoneux de cette auge. Tu nous as poursuivis comme une louve et nous. Nous t'avons disputé des deux mains aux genoux, boue, effroyable ogresse au liquide mamelle. Nous t'avons retrouvé au bord de nos gamelles, au goulot des bidons, sous l'anse de nos quarts. Nous t'avons fait tomber de nous par lourd placard jaunâtre, comme un vieux crépi plein de lézardes. Nous avons eu ton goût sur nos lèvres blafardes. Senti la tiédeur louche entre nos doigts, fondant sous nos ongles, dans l'interstice de nos dents, par les plis de nos bandes moltières. Et nous avons osé dormir des nuits entières, ô boue, infâme boue, oui, nous avons dormi. Tandis que tout saillait le canon ennemi sur ton ventre aux entrailles flasques déroulées. De nos robustes corps, de nos vigueurs musclées et de notre stature alerte de soldat, tu as fait de longs blocs pesants, de mornes tas, où plus rien ne permet, hélas, qu'on reconnaisse ce qui fut notre mal orgueil, notre jeunesse.
Tant de tristesse plénière prirent mon cœur aux femmes du désolé. Quand là j'ai reposé dans les sapinières le poids des kilomètres, pendant que râlait le vent d'ouest, j'avais quitté le joli bois. Les écureuils y sont restés. Ma pipe essayait de faire des nuages au ciel, qui restaient purs, obstinément. Je n'ai confié aucun secret, sinon une chanson énigmatique aux tourbières humides. Les bruyères fleurant le miel attiraient les abeilles. Et mes pieds endoloris foulaient les myrtilles et les érèbes, tendrement mariés. Nord, nord, la vie si tord en arbre fort et tord, la vie mort, la mort, à belles dents en bruit de vent.
Mais de la terre et de l'air, nous viennent des forces défensives, surtout de la terre. Pour personne, la terre n'a autant d'importance que pour le soldat. Lorsqu'il se presse contre elle longuement, avec violence, lorsqu'il enfonce profondément en elle son visage et ses membres, dans les affres mortels du feu, elle est alors son unique amie, son frère, sa mère. Sa peur et ses cris gémissent dans son silence et dans son asile. Elle les accueille. Et de nouveau, elle le laisse partir pour 10 autres secondes de course et de vie. Puis elle le ressaisit, et parfois pour toujours. Terre, terre, terre. Terre, avec tes plis de terrain, tes trous et tes profondeurs où l'on peut s'aplatir et s'accroupir. Ô terre, dans les convulsions de l'horreur, le déferlement de la destruction et les hurlements de mort des explosions, c'est toi qui nous as donné le puissant contre-courant de la vie sauvée. L'ébranlement éperdu de notre existence en lambeaux a trouvé un reflux vital qui est passé de toi dans nos mains, de sorte que, ayant échappé à la mort, nous avons fouillé tes entrailles et, dans le bonheur muet et angoissé d'avoir survécu en cette minute, nous t'avons mordu à pleine lèvre.
Il y avait toujours une trêve au petit matin, à l'heure où la terre sue sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats, aux yeux rouges, marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des eaux de craie tout décharnées. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous, paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissent d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue, puis se mettaient en boule et ils commençaient à manger cette chair entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps, ils se passaient la pâte sur les moustaches pour se faire propre. Pour les yeux, ils les sortaient à petits coups de griffe et ils léchaient le trou des paupières, puis ils mordaient dans l'œil comme dans un petit œuf et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté en humant le jus. Quand l'aube n'était pas encore bien débarrassée, les corbeaux arrivaient à larges coups d'ailes, tranquilles. Ils cherchaient le long des pistes et des chemins les gros chevaux renversés. À côté de ces chevaux, aux ventres éclatés comme des fleurs de caprier, des voitures et des canons culbutés mêlaient la ferraille et le pain, la viande de ravitaillement encore entortillée dans son pansement de gaz et les baquettes jaunes de la poudre à canon. Ils s'en allaient aussi sur leurs ailes noires jusqu'au carrefour des petits boyaux, à l'endroit où il fallait sortir pour traverser la route. Là, toutes les corvées de la nuit laissaient des hommes. Ils étaient étendus, le seau de la soupe renversé dans leurs jambes, dans un mortier de sang et de vin. Le pain même qu'ils portaient était crevé des déchirures du fer et de balles. Et on voyait sa mie humide et rouge gonflée du jus de l'homme, comme des bouts de miche qu'on trempe dans le vin pour se faire bon estomac au temps des moissons. Les corbeaux mangeaient au pain et en même temps, ils le vendangeaient de leurs griffes en sautant d'une patte sur l'autre. De là, ils s'en venaient jusqu'à pousser de la tête le casque du mort. C'étaient des morts frais, et fois tièdes et juste un peu blêmes. Le corbeau poussait le casque. Parfois, quand le mort était mal placé et qu'il mordait la terre à pleine bouche, le corbeau tirait sur les cheveux et sur la barbe, tant qu'il n'avait pas mis à l'air cette partie du cou où est le partage de la barbe et du poil de poitrine. C'était là, tendre et tout frais. Le sang rouge y faisait encore la petite. Il se mettait à becquer là, tout de suite, à arracher cette peau. Puis il mangeait gravement, en criant de temps en temps pour appeler des femelles. Les morts bougeaient. Les nerfs se tendaient dans la raideur des chairs pourries, et un bras se levait lentement dans l'aube. Il restait là, dressant vers le ciel sa main noire tout épanouie. Les ventres trop gonflés éclataient, et l'homme se tordait dans la terre, tremblant de toutes ses ficelles relâchées. Il reprenait une parcelle de vie. Il ondulait des épaules comme dans sa marche d'avant. Il ondulait des épaules comme à son habitude d'avant, quand sa femme le reconnaissait au milieu des autres, à sa façon de marcher. Et les rats s'en allaient de lui. Mais ce n'était plus son esprit de vie qui faisait onduler ses épaules, seulement la mécanique de la mort. Et au bout d'un peu, il retombait immobile dans la boue. Alors, les rats revenaient. La terre même s'essayait à des gestes moins lents avec sa grande pâture de fumier. Elle palpitait comme un lait qui va bouillir. Le monde, trop engraissé de chair et de sang, haletait dans sa grande force. Au milieu des grosses vagues de bouleversement, une vague vivante se gonflait, puis la posthume se fendait comme une croûte de pain. Cela venait de ces poches où tant d'hommes étaient enfouis. La pâte de chair, de drap, de cuir, de sang et d'os se levait. La force de la pourriture faisait éclater l'écorce. Et les mères corbeaux claquaient du bec avec inquiétude dans les nids de draps verts et bleus. Et les rats dressaient les oreilles dans leurs trous achaudis de cheveux et de barbes d'hommes. De grosses boules de verre gras et blanc roulaient dans l'éboulement des talus. En même temps que le jour montait des au-delà du désert, le roulement sourd d'un grand charroi. C'étaient ces fleuves d'hommes, de chars, de canons, de camions, de charrettes qui clapotaient à bord de le creux des coteaux. Les grands chargements de viande, la nourriture de la terre. Mais le jour traînait longtemps avant de monter. D'abord, de l'horizon déchiré, un liseré de lumière dépassait, puis un feu pâle glissait entre les nuages, coulait comme de l'eau dans les détours des tranchées. C'était tout. Ça se diluait dans le vaste espace du ciel et de la terre, et ça restait comme ça, couleur de vieille paille grise. C'était le jour.
Avec la terre, leur corps célèbre des noces sanglantes.
Elle est lourde comme une éponge. On ne peut pas presser la terre sans en faire sortir du sang.
Est-ce une pensée ultime qui dans son œil bouge? Non, c'est la première larme.
De sa poitrine déchirée, sortit en guise d'âme un portrait de fillette blonde. Si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclaté sur le front de l'armée, un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace courirait de mon sang le long de tout entier. La mer, les monts, les vallées, les étoiles qui passent, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point. Toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans mon corps écarté. Vous, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie. Souviens-t-on quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur? Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Ô mon unique amour de ma grande folie. Elle, la nuit descend. Oh, on y pressent. Eut un long, long destin de sang.
Attends, je vais voir.
À quatre pattes, William se laissa glisser, posa doucement la main sur le front du lieutenant, palpa la carotide.
Il tient le coup, mais c'est juste.
Enfin, j'osais regarder ma main droite. ou ce qu'il en restait. Un sang rouge imbibait lentement le bandage blanc. Bill.
Oui, quoi?
J'ai encore tous mes doigts. Il remonta la couverture sur les jambes du lieutenant.
Mais oui.
Tu crois qu'on va me la... Je pensais à Benjamin, à la manche vide de son veston.
Mais non.
Dans sa musette, il prit un des traités.
Tu écriras encore beaucoup de poèmes, Niki.
Il tourna une page, sourit.
Tu as vu sous les barbelés, les belles spirites.
J'aurais juré que c'était des berces. À la surface, sporadique, la mitraillade continuait. Nous n'alarmions plus Glaive. Le lieutenant dormait. Pour la première fois, j'eus l'idée de consulter sa montre. Il était 7 heures. Le cadran circulaire semblait une réduction du ciel rond tendu au-dessus de l'entonnoir. Vers l'ouest, l'horizon commençait à rougeoyer, allumer des reflets sur les boîtes de singes et les douilles vides qui traînaient au bord des trous. À l'est, le bleu profond mirait lentement au gris ardoise. Bientôt, les premières étoiles y perceraient leurs trous d'épingle. Quand la nuit viendrait, nous pourrions enfin songer à regagner nos lignes et une vie qui, vue d'ici, ressemblait à la normalité.
Je vais compter jusqu'à 1000. Cela fera bien un quart d'heure. Après, je n'aurai plus qu'une heure à tirer. Et cela m'endort, ce chapelet de chiffres bêtes. Pour me tenir éveillée, je veux penser à l'attaque. Votre course folle dans la plaine, la chaîne d'hommes qui se brise maille à maille. Je veux me faire peur. Mais non, je ne peux pas. Ma tête lourde ne m'obéit plus. Mon esprit engourdi se perd en titubant dans une rêverie confuse. La guerre. Je vois des ruines, de la boue, des files d'hommes fourbus, des bistrots où l'on se bat pour des litres de vin, des gendarmes aux aguets, des troncs d'arbres déchiquetés et des croix de bois. Des croix, des croix. Tout cela défile, se mêle, se confond. La guerre. Il me semble que ma vie entière restera éclaboussée de ces mondes horreurs, que ma mémoire salie ne pourra jamais oublier. Je ne pourrai plus jamais regarder un bel arbre sans supputer le poids du mandat, un coteau sans imaginer la tranchée à contre-pente, un champ inculte sans chercher les cadavres. Quand le rouge d'un cigare luira au jardin, je crierai peut-être « Hé, le ballon qui va me faire repérer !» Ce que je serai embêtant avec mes histoires de guerre quand je serai vieux.
Fin de faction. L'aube éteint les dernières étoiles. Assis, mon mousqueton sur les genoux, je sifflote à la gloire du soleil.
Dans les arbres fracassés, miracle, un alléluia d'oiseaux.
Déclaration ministérielle de Georges Clemenceau à la Chambre des députés, le 20 novembre 1917. Nous nous présentons devant vous dans l'unique pensée d'une guerre intégrale. Nous voudrions que la confiance dont nous demandons le témoignage fût un acte de confiance en vous-même, un appel aux vertus historiques qui nous ont fait français. Nous avons de grands soldats d'une grande histoire, sous des chefs trempés dans les épreuves, animés au suprême dévouement qui firent le beau renom de leurs aînés. Par eux, par nous tous, l'immortelle patrie des hommes, maîtresse de l'orgueil des victoires, poursuivra dans les plus nobles ambitions de la paix le cours de ses destinées. Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Ils veulent qu'aucune de nos pensées ne se détourne d'eux, qu'aucun de nos actes ne leur soit étranger. Nous leur devons tout, sans aucune réserve. Tout pour la France saignante dans sa gloire. Tout pour l'apothéose du droit triomphant. Droit du front et devoir de l'arrière, qu'aujourd'hui tout soit donc confondu. que toute zone soit de l'armée. Ces silencieux soldats de l'usine, sourds aux suggestions mauvaises, ces vieux paysans courbés sur leurs terres, ces robustes femmes au labour, ces enfants qui apportent l'aide d'une faiblesse grave, voilà de nos poilus. De nos poilus qui, plus tard, songeant à la grande œuvre, pourront dire comme ceux des tranchées, j'en étais. Hélas, il y a eu aussi des crimes contre la France, qui appellent un prompt châtiment. Faiblesse serait complicité. Tous les inculpés en conseil de guerre, plus de campagne pacifiste, ni trahison, ni de trahison, la guerre, rien que la guerre. Un jour, de Paris au plus humble village, les rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés par les obus, magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre race, après tant d'autres, il est dans notre pouvoir de le faire.
Vous n'êtes pas au monument aux morts, vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer noire. Vous êtes mort et deux fois mort. À vos petits-enfants, on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas. Mutin de 1917. Sur votre dos, les Joffre et les Nivelles faisaient carrière dans les états-majors. Leur humeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle, au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empoignade. Vous parlez d'une belle occasion. Vous aviez fait tant d'assauts inutiles, juste pour corser le communiqué. Vous vous sentiez tellement cocufié, tellement pris pour des imbéciles, que vous avez voulu que ça s'arrête, cet abattoir tenu par la patrie, cette nationale charcuterie, mutin de 1917, mutin de 1917.
Pardonnez-moi cette amertume, mais l'âge d'aimer quand nous lûmes, comme le regain sous la faux, tout y sonnait mortel et faux, et qu'opposé sinon nos songes au pas triomphant du mensonge, nous qui n'avions pour horizon qu'hypocrisie et trahison. La guerre, on la voit à l'envers, et vienne le troisième hiver, petit hiver des condamnés, est-ce que c'est pour cette année? Le ciel déjà prend goût de terre, puisqu'on est des morts sur six terres. Tous les calculs que nous ferons auront une balle en plein front. Comment croire ce qu'on enseigne? J'ai touché pourtant ce qui saigne. J'ai vu frémir. J'ai dû fermer de mes doigts des yeux bien-aimés. D'autres les ont à la taverne, j'eus moi mes 20 ans en caserne, enfant maigre, habillé de bleu, rêvant beaucoup et mangeant peu. C'était le Paris de l'an 1000. Adieu ma vie, adieu ma ville. Pont Alexandre, pâle et beau le soir, comme un verre de Rimbaud. Se peut-il que je vous oublie, ô palefrenier de mardi? J'ai laissé mon cœur à la traîne dans les bosquets du cours La Reine. Je ne vous reverrai jamais fleurir, marronnier que j'aimais. Je pars et je vous abandonne, long quai de pierre sans personne, veillant sur le fleuve profond où les désespérés s'en vont. Il paraît que je pars me battre. Adieu Paris, mon grand théâtre. Adieu viaduc de Passy. Adieu tout ce qu'on voit d'ici. Les deux rives fuyant à l'angle, ce qui se cache et ce qui tremble, les jardins du Trocadéro et le vert luisant du métro. Le temps vient des métamorphoses. J'ai quitté la beauté des choses. Et dans le train qui s'éloignait, ma plaque de fer au poignet, j'entendais d'abord creux et sourd croître le bruit des canons lourds. Et le wagon vers les armées portait des chants et des fumées. Voici la région des tirs. Voici la roue et le martyr. Le fer y tombe dénué. Y vivre a pour règle tuer. Entends l'approche des marmites sous le crépuscule des mythes. Dans cette terre déchirée, le cri de la chair labourée. Tes yeux, ta lèvre, ta narine, l'intérieur de ta poitrine, l'air même y viendra les ronger. Tu respireras le danger. Alerte, alerte, alerte au gaz. Arrache le masque des phrases et sous les velours des idées, montre ta face défardée.
Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre palace est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sanglot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Ces malheureux doigts sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Septembre 1918. Mon Hélène chérie, après 4 ans d'angoisse, mêlée d'espérance, tu vois enfin apparaître les signes avant-coureurs de la félicité que tu as si bien méritée. Et là-bas, à quelques 1000 mètres devant moi, Sur ce chemin où passent peu de dames au milieu de la fumée des obus, se dessine l'aurore de la victoire. L'épreuve a été longue, et nous en voyons la fin. Sois heureuse, mon élève aimé. Ta lettre m'est arrivée il y a plusieurs jours, qui me souhaitait beaucoup de satisfaction et de récompense. Merci. Et d'ores et déjà, je me sens heureux d'avoir un peu, un tout petit peu, contribué à la victoire. Mon rêve se réalise. Hier soir, dans le quartier Bosch, où, loin du front, nous nous reposons, mes hommes et moi, j'ai eu une bien grande joie. Mes poilus m'ont donné un satisfait chiffre. Ils m'ont dit être contents de moi en termes profondément troublants qui, un peu plus, me laissaient venir les larmes aux yeux. Nous avons fait notre devoir. Mais j'ai été extrêmement circonspect, prudent, et j'ai la grande satisfaction de n'avoir pas de perte, ou du moins si peu. Si peu que cela compte à peine. Maintenant, je ne suis plus dans la bataille, et je le regrette. Quelle sensation sublime j'ai éprouvée en parcourant ce sol français reconquis derrière les Boches en fuite. Écris-moi de temps en temps, j'aime à te lire. Ton Riquet.
Henri Lange était le fils d'un homme d'affaires établi en région parisienne. Sa famille d'origine juive et alsacienne était établie à Neuilly depuis plusieurs générations. Il avait quitté le lycée Pasteur le jour de ses 17 ans pour s'engager en 1915. Il avait l'habitude d'écrire souvent à sa sœur Hélène. Élevé dans une France encore divisée par l'affaire Dreyfus, Henri pensait qu'il avait une dette de bon français envers le pays qu'il aimait. Il n'a donc cessé d'intervenir pour être toujours plus exposé. Il a été tué à la tête de sa section le 10 septembre 1918, à l'âge de 20 ans, le lendemain du jour où il écrivit cette lettre.
J'ai un rendez-vous avec la mort. Sur quelques barricades âprement disputées, quand le printemps revient avec son ombre frémissante et quand l'air est rempli des fleurs du pommier. J'ai un rendez-vous avec la mort quand le printemps ramène les beaux jours bleus. Dieu sait qu'il vaudrait mieux être au profond des oreillers de soie et de duvet parfumé, où l'amour palpite dans le plus délicieux sommeil, poux contre poux et souffle contre souffle, où les réveils apaisés sont doux. Mais j'ai un rendez-vous avec la mort, à minuit, dans quelques villes en flammes, quand le printemps revient vers le nord cette année. Et je suis fidèle à ma parole. Je ne manquerai pas ce rendez-vous.
Communiqué à la presse du 11 novembre 1918, 21h. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats ininterrompus l'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tantôt supportant avec une énergie indomptable les assauts de l'ennemi, tantôt attaquant à leur tour elles-mêmes et forçant la victoire, elles ont, après une offensive générale décisive de 4 mois, bousculé, battu et jeté hors de France la puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi, l'armistice est entré en vigueur ce matin à 11h. Philippe Pétain.
Une main travaille avec des doigts gourds l'entrée boutonnée de ma demeure. Un papier glisse dans la fente des 2 toiles. La décision, mon lieutenant. Toutes les branches de la forêt ont pleuré dessus au passage. Ce n'est plus qu'un entrelac de ruisseaux violets. Je lis pourtant prise d'armes à 15h et les détails de rassemblement. Nous sommes au 22 novembre. En 5 semaines, pendant la traversée au pas de course de la Macédoine, puis de la Bulgarie, Le long des 600 km de montagne, les trois quarts du régiment ont fondu. J'ai vu mes hommes, un à un, tomber sur les genoux quand ça montait, sur le dos à la descente d'école. Les 300 bons hommes qui restent pourrissent tranquillement dans le bois depuis 8 jours. Pour qu'on leur ordonne une prise d'armes, il faut tout de même qu'il y ait quelque chose de vrai dans ce que les Italiens nous ont crié la semaine dernière, quand on passait à Cusdentine. Eh bien, même pour ça, on devrait nous foutre la paix, dire qu'il va falloir se rechausser. Quand j'aurai 80 ans, que je serai perclus et roide, ça me coûtera sûrement moins de m'habiller. C'est comme si on entrait dans un bain de glace. Tout ce qu'on met est saturé de neige fondue. Je ne parviendrai jamais à réchauffer ces éponges. Ben, qu'on nous laisse au moins mettre nos grolles. Les grolles. C'est devenu un mot, une chose tragique, pour ces pauvres pieds de fantassins affreux à voir et à traîner. Des pieds sans chaussettes, éraillés par le cuir des gros souliers, écorchés par tous les silex blessants de la montagne. Pour les talons arrachés par des semaines de montée, les doigts écrasés, laminés par des jours et des jours d'affreuses descentes. Les grolles. Depuis 8 jours, on les soigne, on les réchauffe, on les masse, on les imprègne patiemment de la graisse des boîtes de singes, dans l'espoir qu'elles s'attendriront. Mais à chaque fois qu'il faut y pousser les pieds gonflés, meurtris, saignants, oh bon Dieu, je peux pas. J'y vais nulle part, moi, à leur saloperie de truc. Maintenant, tout le régiment est massé l'arme au pied. Il y a 2 mois que je ne l'ai vu, depuis une prise d'armes au prix, et je le trouve effrayant. Un alignement de face blême, émacié, des joues comme crevées, des yeux creux. Mais il y a autre chose que je ne saisis pas tout de suite. Il y a dans l'aspect de ces hommes une étrangeté que je ne parviens pas encore à préciser. Au garde à vous, sur le fond de ma compagnie, je cherche. Et je trouve soudain. C'est le vague de leurs vêtements qui m'a frappé. Malgré les bretelles des cartouchières qui les plaquent sur la poitrine, les capotes semblent pendre des épaules comme des porte-manteaux. Et les ceinturons, lâches malgré les crans supplémentaires, s'enfoncent extraordinairement à la place du ventre. Le colonel s'est avancé au centre du carré, un papier à la main.
Mes amis, j'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Nous sommes vainqueurs.
Depuis le 11 novembre, la guerre est finie sur le front français. À vrai dire, on s'en doutait un peu, mais c'est tout de même une sacrée minute. L'émoi se mesure à l'immobilité pétrifiée des hommes, tandis que le colonel hache dans les rafales les lignes du communiqué. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, le crivet rabat sur le front des compagnies les bribes des phrases historiques. L'exemple d'une sublime endurance et d'un héroïsme quotidien, tantôt attaquant elle-même et forçant la victoire. Puis le colonel replie son papier et laisse tomber négligemment. L'armistice est entré ce matin à 11h. L'armistice est entré en vigueur ce matin à 11h. Il a bien raison, le vieux, de ne point faire un sort à cet avis qui ne nous concerne pas.
Sur sa couche funéraire, pour toujours endormi, je regarde mon ennemi et je reconnais un frère.
La mort a creusé sans doute ces gigantesques sillons dont les graines sont des hommes.
De Vailly à Craon, le chemin des dames est pavé de crânes.
Quelques vivants épars sur la foule couchée. Le général met du rouge à ceux qui n'ont pas saigné.
Mes camarades, mes frères, nous aurons beaucoup souffert. Hélas, vous vaincrez sans moi.
Arrivé sur la hauteur, je m'arrête et me retourne pour voir une dernière fois emporter dans mon âme l'image de cette grande plaine couturée de tranchées, hercés par des obus, avec les trois villages que nous avons pris, trois monceaux de ruines grises. Comme c'est triste, un panorama de victoire. La brume en cache encore des coins sous son suaire, et je ne reconnais plus rien sur cette vaste carte de terre retournée. Les trois chemins, la ferme, le boyau blanc, tout cela se confond. C'est la même plaine, usée jusqu'à sa trame de marne blanche, une lande anéantie, sans un arbre, sans un toit, sans rien qui vive, et partout, mouchetée de taches minuscules, des morts, des morts. Il y a 20 000 cadavres de Boches ici, s'est écrié le colonel, fier de nous. Combien de Français? Il a fallu tenir 10 jours sur ce morne chantier, se faire hacher par bataillon pour ajouter un bout de champ à notre victoire, un boyau éboulé, une ruine de bicoque. Mais je puis chercher, je ne reconnais plus rien. Les lieux où l'on a tant souffert sont tous pareils aux autres, perdus dans la grisaille, comme s'il ne pouvait y avoir qu'un même aspect pour un même martyr. C'est là, quelque part. L'odeur fade des cadavres s'efface. On ne sent plus que le chlore répandu autour des tonneaux. Mais moi, c'est dans ma tête, dans ma peau que j'emporte l'horrible haleine des morts. Elle est en moi, pour toujours. Je connais maintenant l'odeur de la pitié.
De ces maisons, il n'est resté que quelques moignons de murs. De tant d'hommes, selon mon cœur, il n'est pas même autant resté. Mais dans le cœur, aucune croix ne manque. C'est mon cœur le pays le plus ravagé.
Je n'irai pas au cimetière. Je cherche son souvenir et non son cadavre.
Dans la bise froide, l'obus éternue. Que Dieu le maudisse.
Je crois reconnaître l'indicatif de la marche du 94e régiment d'infanterie. Mais où est donc passé notre chef de musique, Prosper Lojard? Soudain, je songe à tous mes compagnons restés dans la boue de l'Argonne, de la Champagne et de Verdun. À l'eau fraîche, mon tampon, touché par un obus, lorsque nous revenions ensemble de Saint-Soublet. Pourquoi lui et pas moi? À Blondelot, enfant de Mini-Montant, transpercé d'une balle à côté de moi. Pourquoi lui et pas moi? D'autres noms me viennent, ils sont si nombreux. J'ai la chance de survivre, mais aujourd'hui, je me sens seul. Tout le monde est parti fêter la victoire. Il règne un grand silence. Le moment est venu de me recueillir pour tous mes amis. Je laisse derrière moi la carcasse de l'ambulance et je me retrouve seul dans la rue. La guerre est finie. Mais pour moi, rien ne sera jamais plus comme avant.
Sur ce but-là, y avait pas de gigolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a vu du beau sang, cette terre sans d'ouvriers et sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, ont-ils plaisir. La butte rouge, c'est son nom, le baptême spit un matin, où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on y faisait Phalanos, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars, doucement, y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers, j'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, Battensuite un matin, où tous ceux qui montèrent roulèrent dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi, j'y vois des croix portant le nom des copains. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Qu'ils ne soient pas pesés comme Dieu pèse un ange. Que Dieu mette avec eux un peu de cette fange qu'ils étaient en principe et sont redevenus. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Qu'ils ne soient pas pesés comme on pèse un démon. Que Dieu mette avec eux un peu de ce limon qu'ils étaient en principe et sont redevenus. Mère, voici vos fils qui se sont tant battus. Qu'ils ne soient pas pesés comme on pèse un esprit. Qu'ils soient plutôt jugés comme on juge un proscrit qui rentre en se cachant par des chemins perdus. Mère, voici vos fils et leur immense armée. Qu'ils ne soient pas jugés sur leur seule misère. Que Dieu mette avec eux un peu de cette terre qui les a tant perdus et qu'ils ont tant aimés. Mère, voici vos fils qui se sont tant perdus. Qu'ils ne soient pas jugés sur une basse intrigue. Qu'ils soient réintégrés comme l'enfant prodigue. Qu'ils viennent s'écrouler entre deux bras tendus.
Qu'as-tu appris à la guerre?
J'ai appris d'abord à mieux compter sur cette mécanique vivante que je croyais fragile. Aussi, je n'écoute plus ces faibles plaintes et réclamations comme je le faisais, car je me suis assuré par une longue expérience que la crainte d'être malade est la cause principale des maladies.
Encore, qu'as-tu appris à la guerre?
J'ai appris encore à mieux goûter la joie d'être vivant. Je mange, je bois, je respire, je dors avec bonheur. Par cette précieuse bonne humeur, je suis disposé à ne pas m'inquiéter beaucoup des petites choses.
Encore, qu'as-tu appris à la guerre?
J'ai appris à aimer les chaussures larges et les cols mous, parce que j'ai porté longtemps la livrée du pauvre. Enfin, j'ai perdu cette habitude bourgeoise que j'avais de vouloir imposer par l'extérieur. C'est un souci de moi.
Encore, qu'as-tu appris à la guerre?
J'ai appris à décider vite et à exécuter avec réflexion, parce que l'expérience m'a fait voir que la destinée de chacun dépend moins de l'action décidée que du chemin suivi. Autrefois, je délibérais avant de commencer, ce qui est craindre avant de savoir.
Encore, qu'as-tu appris à la guerre?
J'ai appris que les choses ne nous veulent ni mal ni bien, et que, si dangereuses qu'elles soient, tu peux toujours compter sur elles, ce qui fait que chacun surmonte à chaque instant la destinée par attention et prudence.
Encore, qu'as-tu appris à la guerre?
J'ai appris que rien n'est plus utile à l'homme que l'homme, et que rien n'est meilleur pour l'homme que l'homme.
Étrange. Mais encore, qu'as-tu appris à la guerre?
Aussi, que les plus grands maux viennent de l'homme, et que la menace humaine, continuellement perçue par l'un des mots, n'affaiblit nullement cette amitié universelle, et au contraire, à ce que j'ai éprouvé, la fortifie.
Ces choses ne vont pas ensemble. En ton abri, tu as eu le loisir de penser. Allons, sérieusement, qu'as-tu appris à la guerre?
j'ai appris que tout pouvoir pense continuellement à se conserver, à s'affirmer, à s'étendre, et que cette passion de gouverner est sans doute la source de tous les maux humains. Donc que l'esclave n'en devienne plus mauvais, tout au contraire. Il apprend à dominer les vifs mouvements de l'orgueil et il s'approche malgré lui de l'heureuse égalité. Mais c'est le maître qui devient méchant par l'exercice du pouvoir absolu. Méchant d'abord parce qu'il prend ses inférieurs comme instruments et outils. Méchant enfin par la colère qui lui gâte l'estomac. Et selon mon opinion, tous les sentiments guerriers viennent d'ambition, non de haine. Jusqu'au plus haut degré du pouvoir, qui se trouverait être bientôt le plus haut degré de dépendance, si la guerre et la menace de guerre n'imposaient qu'une obéissance sans discussion. En sorte que tout pouvoir aime la guerre, la cherche, l'annonce et la prolonge, par un instinct sûr et par une prédilection qui lui rend toute sagesse odieuse. Autrefois, je voulais conclure, trop vite, qu'il faut être assuré de la paix pour diminuer les pouvoirs. Maintenant, mieux instruit par l'expérience de l'esclave, je dis qu'il faut réduire énergiquement les pouvoirs de toute espèce, quels que soient les inconvénients secondaires, si l'on veut la paix.
Thank you.